Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Richard de Seize.
Bonjour chers amis, bienvenue dans Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous parlerons du sort du peuple iranien, victime de l'accord signé par Trump avec Amélie Chély. Nous enchaînerons avec un grand entretien entre Patrick Legras et Alain Peretti, l'un éleveur, l'autre vétérinaire. Un éleveur peut-il se soucier du bien-être animal? Nous débattrons du périscolaire parisien avec les nouvelles révélations de Julie Solveig, notre journaliste. Et enfin, un entretien spécial avec Thaïs Descuffon. On se posait la question hier si elle allait attraper 4 mois de prison ferme, hein, pas du tout, mais on en discutera quand même avec elle. Avec les chroniques aussi d'Alexandre de Gazin, de Pascal Pointu, d'Alexis Poulain et de Tuc du Haldoni. Et c'est le moment de vous signaler que le 19 juin 1790, abolition de nombreux privilèges de la noblesse et du clergé en France, c'est une vraie victoire. Ils ont depuis été tous rétablis au profit des députés français, des technocrates européens et des milliardaires de gauche. Et un petit mot d'actualité.
Chers auditeurs, bonjour. Le G7 s'est achevé, il est temps d'en tirer le bilan. A noter d'abord un énième retournement de veste de la part de Donald Trump sur le dossier russe, qualifiant Poutine de loser et Zelensky de winner, soit à peu près l'inverse d'il y a 6 mois. De même, l'intelligence artificielle et les questions technologiques ont beaucoup occupé les discussions. La preuve par le discours de clôture d'Emmanuel Macron. Bouchez-vous les oreilles, on l'écoute.
D'abord, la nécessité de protéger l'enfance en ligne. On voit le consensus qui monte. Et du Canada aux Britanniques, en passant évidemment par l'Union européenne, le Brésil, l'Australie n'était pas là, mais je veux saluer son rôle aux avant-postes. Nous sommes plusieurs à avoir déjà pris des initiatives concrètes et de finaliser des lois. Nous avons adopté une déclaration pour nous accorder sur la nécessité d'agir et l'importance d'appeler les plateformes à la responsabilité. Et donc cette dynamique va se poursuivre.
Voilà, vous n'en aviez pas assez de Macron, sachez qu'il va encore plus loin avec ses amis Keir Starmer et McCarney. Mais si le président souhaite autant protéger nos enfants, peut-être est-ce parce qu'il s'y connaît en détournement de mineurs. 14 ans, prof de théâtre, suivez mon regard.
Eh ben, on va regarder ailleurs néanmoins. Un mot sur l'environnement maintenant.
Oui, une quinzaine de pays dont la France ont signé la déclaration de Mombasa cette semaine au Kenya. Déclaration d'intention de lutte contre la pêche illégale qui vide les océans et provoque souvent la paupérisation à vitesse grand V des marins pêcheurs au profit des grandes multinationales. L'opacité entourant une partie du secteur de la pêche compromet les efforts déployés pour lutter contre sa composante illégale et les abus qui y sont liés selon ce texte qui estime essentiel l'accroissement de la transparence dans ce secteur. À la fois social et écologique, la déclaration de Mombasa est un échec. De fait, ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon ne l'ont signé. De quoi compromettre sérieusement les réussites de chances de lutte contre la pêche illégale.
Et le marché entre les États-Unis et l'Iran continue de faire des remous.
Oui, la colère israélienne ne retombe pas quelques jours après la signature de la trêve dont Richard de Seize nous parlait hier. Après que le gouvernement israélien a annoncé la poursuite de ses opérations militaires au Liban sous le prétexte de lutter contre le Hezbollah, les négociations se poursuivraient pour pouvoir les maintenir sur le long terme, selon Reuters. De quoi faire réagir le vice-président américain, je cite, « Ces 3 derniers mois, 2/3 des armes défensives qui ont protéger votre pays ont été fabriqués par des mains américaines et payés par les contribuables américains. Le problème d'Israël, ce n'est pas Donald Trump et ceux qui en Israël pensent qu'il est leur plus gros problème doivent ouvrir les yeux et prendre conscience de la réalité », a lancé Gene Evans pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.
Et comment va Jack Lang ?
Alors aucune idée, mais sa fête de la musique devrait se tenir sous une chaleur étouffante en France. Plusieurs villes ont carrément annulé ou reporté la fête et la préfecture de police de Paris a interdit le concert que devait tenir la France Insoumise mise à cette occasion. Plusieurs artistes d'extrême gauche avaient en effet été programmés pour un événement 100% politisé, mais le préfet s'est opposé à sa tenue, arguant notamment que de nombreux propos incitant à la haine pourraient y être prononcés. Dans toute la France, cependant, vous retrouverez troubadours et trouvères dans toutes les villes ce dimanche 21 juin. Faut-il s'y opposer parce que Jack Lang l'a inventé ou bien parce qu'il s'agit d'un étalage de sous-art décadent? Le débat reste ouvert.
Et on vous sent un peu de parti pris. Et alors un petit mot de sport?
Eh bien, toujours sur la Coupe du Monde, la terre entière a vibré pour le match République Tchèque-Afrique du Sud hier. 1-1, donc absolument personne n'est content. Autre match absolument essentiel pour l'avenir du football, la Suisse a affronté la Bosnie-Herzégovine dans un match à très haut suspense. Victoire de la Suisse 3-1.
un petit mot du temps qu'il va faire.
Et oui, j'ai bien écouté, après une nuit tropicale, ça ne s'arrange pas dans le pays, il fait toujours des températures caniculaires absolument insupportables, donc ça ce sera sur à peu près tout le pays, sauf sur la façade atlantique, notamment la Bretagne ou la Normandie où il y aura un peu plus d'air. Côté température, on entame ce matin à 23 degrés à Paris, 20 à Lille, 21 au Mans, 15 à Cherbourg. Dans l'après-midi, on atteindra 37 degrés sur le Grand Est, 33 sur les Hauts-de-France, 37 en Ile-de-France et autour de 30 autour du Golfe du Lion. Et nous célébrons en ce 19 juin Saint-Romuald, la bienheureuse Micheline, Saint-Gervais et Saint-Proté, tout comme Saint-Jude, Saint-Romuald et Saint-Rémy et Modeste Andlauer, prêtre jésuite, martyr en Chine en 1900.
Merci Alexandre de Gazon.
Ligne droite.
Et la ligne droite, c'est avec Amélie Chély, sociologue spécialisée dans l'Iran, non. Iranologue. Non. Ah non, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour Alice Meunier.
Bonjour Richard.
Vous aviez un petit décryptage.
Alors oui, un petit décryptage. Donc, chers auditeurs, depuis quelques jours, Yuka alerte sur la présence d'un colorant alimentaire dans la majorité des sirops à la menthe vendus en France. Ce colorant, le E133, appelé aussi bleu brillant FCF, serait présent dans près de 2/3 des produits du marché. À première vue, le sujet peut sembler anecdotique. Après tout, il ne s'agit que de la couleur d'un sirop. Pourtant, cette affaire révèle quelque chose de plus profond. Notre rapport aux additifs alimentaires et la place qu'occupe aujourd'hui le principe de précaution dans notre société. Car il faut le rappeler, une chose essentielle. La couleur verte du sirop de menthe n'a rien de naturel. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les fabricants ne pressent pas les feuilles de menthe pour obtenir cette boisson. Ils utilisent des arômes qui reproduisent le goût de la plante. Résultat, sans colorant, le sirop est transparent ou légèrement jaunâtre. Autrement dit, le E133 n'est pas là pour améliorer le goût ni pour conserver le produit. Il sert uniquement à répondre à une attente visuelle. Le consommateur associe la menthe à la couleur verte. Les industriels lui proposent donc un liquide vert. C'est précisément ce que dénonce Yuka. L'application rappelle que ce colorant est contesté depuis plusieurs années. Des études évoquent un risque accru d'hyperactivité chez certains enfants, ainsi que des interrogations sur d'éventuels effets biologiques à long terme. Même si les autorités sanitaires européennes continuent d'autoriser son utilisation, le débat scientifique n'est pas totalement clos. Et c'est là que la question devient intéressante. Si un additif est indispensable à la sécurité alimentaire ou à la conservation d'un produit, on peut comprendre qu'un certain niveau de risque soit accepté et encadré. Mais lorsqu'un additif n'a qu'une fonction esthétique, la logique est différente. Pourquoi conserver une substance potentiellement dangereuse si elle n'apporte rien d'autre qu'une couleur plus attrayante? D'autant plus que les fabricants savent déjà faire autrement. Plusieurs marques commercialisent des versions sans colorant. Le goût est le même, le produit remplit exactement la même fonction, et d'ailleurs, dans de nombreux cas, ces produits sont vendus plus cher que les versions colorées. Voilà le véritable paradoxe, le consommateur qui souhaite limiter son exposition aux additifs doit souvent payer davantage. Pour autant, il faut garder la tête froide. La présence de E133 dans un sirop ne signifie pas que boire un verre de menthe à l'eau représente un danger immédiat pour votre santé. Le colorant reste autorisé par la réglementation européenne et les quantités utilisées sont encadrées. Mais cette affaire soulève une question de bon sens. Si deux produits ont le même goût, la même utilité, la même qualité, pourquoi conserver un additif qui continue de susciter des interrogations? Pourquoi ne pas privilégier systématiquement la solution la plus simple? Au fond, le débat dépasse largement le cas du sirop de menthe. Il pose la question de savoir jusqu'où l'industrie alimentaire doit aller pour rendre un produit plus séduisant visuellement. Et jusqu'où le consommateur sont prêts à accepter des substances dont on pourrait parfaitement se passer. Parfois, le bon sens est plus simple que des grandes théories. Une menthe à l'eau n'a pas besoin d'être verte pour avoir le goût de la menthe.
Merci Alice Meunier.
Ligne droite. Debout les Français.
Et donc, Debout les Français, c'est avec Amélie Chély, sociologue spécialisée dans l'Iran, iranologue. Bonjour Amélie Chély.
Bonjour.
Alors, l'accord a été signé. On a l'impression qu'il y a plusieurs personnes satisfaites et plusieurs personnes mécontentes. Donc, on ne va pas revenir sur la joie manifestée par Donald Trump, qui est absolument persuadé que cet accord est génial. On va plutôt parler du peuple iranien à qui Donald Trump avait dit le 13 janvier qu'il fallait qu'il continue à manifester et que les Américains allaient être à ses côtés. Voilà, nous sommes fin juin, donc quasiment 6 mois plus tard. Quelle est la situation du peuple iranien maintenant que l'accord est signé ?
Alors, on va rappeler que c'est pas vraiment un accord hein, pour l'instant. Je suis vraiment désolée, j'ai perdu ma voix, vous voyez, pendant la nuit, c'est très bête. C'est pas vraiment un accord, c'est un protocole d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'entendre sur le fait qu'il y ait deux volets principaux, prévalents. Le volet relatif au détroit d'Hormuz d'une part, le volet relatif au nucléaire d'autre part. Et après, on se donne une certaine durée, une soixantaine de jours, pour essayer de regarder détail par détail comment justement chaque point relevant de ces deux volets pourront être traités. Donc rien n'est fait. Mais une chose est sûre, le peuple iranien n'a pas forcément attendu ce protocole d'accord pour être dans le désenchantement. Premier désenchantement, vous y faisiez référence, c'est le moment où Donald Trump disait « L'aide arrive, sortez dans les rues, nous venons vous rejoindre quelque part, faites en sorte que l'intérieur soit chaotique, de sorte que l'extérieur puisse apporter une aide efficace. » Or, aucune aide n'est venue, du moins pas dans l'immédiat, et le temps a été suffisant pour que le régime puisse procéder à des arrestations massives. Donc ça, c'était le premier point. On a eu ensuite beaucoup d'autres points. Je me souviens de deux grandes frayeurs de la population en relation avec la posture américaine. La première, c'était quand il s'était agi d'établir un plan de requête américaine à l'égard de l'Iran. On était encore dans les premiers mois du conflit, le premier mois tout simplement, pas les premiers mois, mais le premier mois. Et les Iraniens avaient très peur finalement que Donald Trump se remette à la solution qu'ils détesteraient eux-mêmes le plus, c'est-à-dire les moujahidines du peuple, d'une part. Et puis ensuite, il y a eu une déclaration de Donald Trump qui, là non plus, n'a pas forcément rassuré le peuple iranien. C'est quand il a dit « J'ai plein d'amis religieux dans le Golfe, je m'entends très très bien avec certaines têtes couronnées wahhabis, donc sous-entendu, je n'aurai absolument aucune difficulté à m'entendre avec un membre du clergé iranien ». Donc là, le peuple iranien a tout de suite compris que la question américaine n'était absolument pas celle du regime change. Bon, de toute façon, je pense que le doute ne s'est jamais véritablement posé. Ça, c'était bien plus une revendication israélienne qu'américaine. Et le peuple iranien le savait très bien. Donc je pense que là, plutôt le désespoir est lié au fait que le régime n'est pas tombé. Hein. C'est pas dans les mains des Américains que les Iraniens ont mis leurs espoirs, ou du moins, ça n'est pas du fait de ce protocole d'accord que ces espoirs-là ne sont plus permis. Ça fait longtemps qu'ils ont disparu.
Alors, le fait que le régime n'ait pas changé, le fait que le clergé, les gardiens de la révolution, l'ensemble des forces possèdent en fait l'État iranien soient restés en place, est-ce une surprise néanmoins que cet État qui a été décapité, dont les chefs de ces différentes factions ont été décimés par les Israéliens, le fait que cet État réussisse à demeurer, à agir, à conserver son emprise, est-ce que cela a étonné les Iraniens ou malgré tout ils pouvaient s'attendre à ce que justement ce régime soit aussi résilient ?
Je pense que ça a étonné les Iraniens qui peuvent avoir des positions politiques proches des néoconservateurs américains ou du moins de tous ceux qui sont pour un regime change. En règle générale, on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Ça vaut pour les Iraniens et ça vaut pour la Terre entière. Donc pour ceux qui sont à bout de souffle, et ils sont très nombreux, mais ceux qui, en plus d'être à bout de souffle, étaient pour un changement de régime, et peu importe ce qui viendrait après, tant ils sont à bout de souffle, eh bien évidemment, les espoirs étaient permis. Et ceux-là ont pu être étonnés que le régime fasse preuve de cette résilience. Ensuite, tous ceux qui, évidemment, sont plus dans une défense du régime, la chose n'a pas été étonnante. Et puis ceux qui sont plutôt dans une objectivité presque académique, dans l'observation du système de la République islamique, de son fonctionnement, n'était pas particulièrement étonné non plus. Quand on sait que c'est un système qui est polycentrique et qui peut fonctionner quand bien même certains centres, certaines instances décisionnaires sont décapitées. C'est-à-dire, il y en a quand même au même niveau, très haut niveau, entre 5 et 9. Donc il faudrait vraiment parvenir à en paralyser 9 pour que la République islamique ne fonctionne plus. Chose qui est très, très compliquée à faire. Et on s'en rend compte même avec l'excellence du renseignement israélien. Cette chose n'est pas faisable, du moins pas en si peu de temps et pas de façon létale. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir des infiltrations sur le très très long terme à l'intérieur de chacune de ces entités pour que un tel projet puisse réussir. Donc cet étonnement, vous voyez, il n'est pas uniforme. Évidemment, ceux qui avaient nourri des espoirs sont extrêmement déçus aujourd'hui, d'autant plus déçus que la République islamique n'a pas fait que se maintenir. Le système, on peut dire qu'il s'est même renforcé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de transformation de la base idéologique. On est toujours dans une idéologie qui s'appelle le Velayat Efari, qui veut dire la tutelle du juriste théologien. Et dans ce système, vous avez toujours donc le clergé qui est supposément décisionnaire. Et à côté du clergé, vous avez une sorte de surmoi psychanalytique de la République islamique. Ce sont les gardiens de la Révolution. Ces deux entités ont toujours existé. Il se passe juste qu'à présent, de façon provisoire ou peut-être non provisoire, l'avenir nous le dira, ce sont les gardiens de la Révolution qui ont pris plus de pouvoir sans totalement évincer le clergé.
Alors, justement, cette irruption des gardiens de la Révolution sur le devant de la scène, cette prise de pouvoir, pour reprendre vos mots, est-ce un étonnement dans la conduite de la guerre, le fait que le clergé se soit mis en retrait ou ait été contraint au retrait, notamment par le fait que ses dirigeants aient été décimés, ou est-ce que ça annonce un véritable changement intérieur de régime?
Alors, c'est pas un véritable changement au sens de révolution, puisque dans la révolution, vous avez un changement de mécanisme et d'entité fondamentale. Or, ça n'est pas le cas. Pour ce qui concerne la surprise, ça n'est pas non plus le cas. D'ailleurs, assez régulièrement, quand il y a soit des problèmes diplomatiques, soit des problèmes de politique interne, la question se pose, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un renversement opéré par les gardiens de la révolution? Parce que, en règle générale, qui prend le pouvoir? C'est ceux qui ont les armes. En Iran, vous avez deux entités qui ont les armes. Vous avez l'armée régulière et vous avez les gardiens de la révolution. Donc, soit on envisage la possibilité d'une transformation et ce n'est pas forcément du côté des gardiens qu'on va chercher, puisque comme nous le disions, ils sont le surmoi idéologique de la République islamique. Soit vous pencher du côté des gardiens. Or, les gardiens ne seraient pas forcément là pour opérer une révolution à proprement parler, mais bien plutôt pour opérer un renforcement de l'actuel régime. Donc, la chose n'est pas si étonnante que cela, d'autant plus que les observateurs le savent. Et d'ailleurs, au ministère des Armées françaises, quand il y a des études qui sont demandées sur l'Iran, elle se concentre très largement sur la question des gardiens de la Révolution. À chaque fois que j'ai pu être sollicitée par la Grande Muette, comme on dit, c'est exclusivement sur la question des gardiens de la Révolution. Donc l'étonnement n'est pas très fort, d'autant qu'on sait que depuis pas mal de décennies, non seulement cette force armée est parallèle à l'armée régulière, mais en plus, elle a étendu ses champs d'influence bien au-delà de ceux qu'une armée traditionnelle est supposée maîtriser. On ne reste pas exclusivement sur terre, mer, cieux. On va devenir propriétaire foncier, on va maîtriser la chirurgie oculaire, on va être propriétaire d'un grand nombre de produits pharmaceutiques, on va être douanier de sorte à pouvoir percevoir des sommes sur les exportations et sur les importations, etc., etc.
Donc, effectivement, il y a toujours cette espèce d'enchevêtrement d'intérêts privés et publics en Iran qui étonne un peu. Lorsque, en janvier, il y a eu ces manifestations, il y a eu aussi une répression incroyable, l'État iranien avait admis à un moment donné qu'il y a eu 3117 morts, en expliquant d'ailleurs qu'une partie de ces morts étaient aussi les forces de l'ordre. D'autres chiffres ont été avancés, 30 000. Vous nous aviez parlé de vos amis qui, sur les boucles Telegram, avaient appelé à manifester et avait disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, est-ce qu'on en sait plus sur les morts de janvier 2026, de décembre 2025, janvier 2026, et est-ce que c'est un épisode qui est passé par pertes et profits par la population et par le pouvoir?
En fait, ça va surtout être une obligation. C'est-à-dire que la population n'a pas d'autre choix que de ne pas s'arrêter à cet événement et d'en faire finalement un événement comme tous ceux qui ont jalonné tristement l'histoire de la République islamique depuis, je ne sais pas, je pense aux manifestations de 99 réprimées dans le sang qui a transformé les villes en une sorte de cimetière à ciel ouvert, puisque vous aviez des pendus aux grues. C'était surtout comme cela que les mises à mort étaient faites. Vous avez eu ensuite les manifestations de 2009 qui ont été historiques, surtout du point de vue des médias français, parce que les médias occidentaux, je veux dire, c'était vraiment emparés de l'affaire, parce que là, il y avait vraiment une perspective révolutionnaire au sens propre du terme. C'est à ce moment-là que nous entendions les premiers slogans qui attaquaient directement la République islamique et non pas un certain nombre de pendant qui lui était coextensif. Ensuite, on a eu toutes les vagues protestataires que nous connaissons jusqu'au mouvement Femmes, Vie, Liberté et le dernier en date, très sévèrement réprimé. Donc, ils n'ont pas trop de choix, les Iraniens, que d'envisager ces répressions-là comme faisant partie de l'histoire de la répression de la République islamique et en même temps, pour ceux qui sont pour un changement de régime, et ils sont nombreux, eh bien, on peut envisager ça. Je crois que l'image avait été employée par un chercheur iranien comme autant de contractions avant un accouchement. Plus elles sont fortes, plus la délivrance est envisageable.
Alors, merci d'ouvrir un peu sur un certain espoir. Vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs catégories de population, celles qui avaient désespérément envie d'y croire, celles qui n'avaient aucun intérêt à ce changement de régime, et au milieu, donc, une population qui essaie d'être objective et de se dire, voilà, il y a des choses qui sont possibles, et il y a des choses dont on peut rêver. Malgré tout, la relative ouverture que ce protocole d'accord laisse dessiner, le fait que les sanctions vont être levées, le fait que l'Iran soit moins isolé et en tout cas aspire à moins l'être, est-ce que ce n'est pas aussi un espoir à terme pour le peuple iranien?
Oui, ça avait été assez assez étonnant et ça ne date pas du protocole d'accord, hein. Ça commençait déjà quelques semaines auparavant, c'est-à-dire que ces mêmes Iraniens qui comptaient sur la guerre pour éventuellement assister à un changement de régime, ou du moins un affaiblissement du régime tel que ça allait forcer l'actuel régime à adoucir son comportement, eh bien ceux-là même se disaient qu'en fait, finalement, la question du détroit d'Ormuz avait été un tel coup de force de la part de la République islamique en tenant en otage l'économie mondiale, que cela allait au moins pouvoir permettre de négocier des levées de sanctions. Donc déjà, il y a quelques semaines, on observait dans la population, même la plus réfractaire à l'actuel système, cet espoir-là, on essaie de se rabattre sur ce qu'on peut. Maintenant, pour ceux qui sont les plus lucides, on peut aussi partir du principe que des accords encadrant le nucléaire ont déjà existé, que la contrepartie iranienne a déjà été observée comme étant respectée par l'AIEA à chaque fois que l'AIEA se penchait, comme les accords le demandaient, sur l'état de développement du nucléaire iranien, et que malgré tout, la table a été renversée, et que même avant que la table ne fût renversée, eh bien, il y avait des retranspositions de sanctions, non pas liées au nucléaire, puisque la question du nucléaire était respectée côté iranien, du moins du point de vue de l'AIEA, simplement, on en transposait d'autres relatives à la fameuse triade aide à des groupes figurant sur la liste des organisations terroristes, développement du programme de missiles balistiques et absence de respect des droits de l'homme. Donc les Iraniens les plus lucides sont un petit peu dubitatifs, pas très confiants quant à la perspective de levée de sanctions, parce qu'ils savent que déjà la chose a pu avoir lieu et ne s'est pas véritablement faite.
Eh bien, merci beaucoup Amélie Chély pour ce point sur les espoirs et les attentes de la population iranienne. Merci et très bonne journée.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h24. À 8h moins 10, Alexis Poulain nous viendra nous parler et nous aurons sa chronique. Mais tout de suite, c'est avec Patrick Legras et Alain Peretti que nous allons aborder la question du bien-être animal.
Ligne droite. Le grand entretien.
Alors, pourquoi la question du bien-être animal? D'où est-ce que ça sort? Eh bien, tout simplement parce que, entre les attaques de quelqu'un comme Sandrine Rousseau, mais aussi la manière dont le Mercosur est venu bouleverser le paysage agricole français, on se pose la question de la soutenance, comme on disait au XVe siècle, du modèle agricole français. On se demande dans quelle mesure on peut effectivement continuer à manger de la viande en n'étant ni stigmatisé par les écologistes fous, ni prisonnier en fait d'une agro-industrie bouchère qui est capable de faire déverser des milliers de tonnes de bœuf brésilien ou d'agneaux néo-zélandais en France. Donc, est-ce que le modèle français d'une boucherie respectueuse des animaux est capable de durer? Est-ce que le bien-être animal a un sens? Eh bien, justement, c'est avec Monsieur Legras, donc président de la coordination rurale des Hauts-de-France et porte-parole de la coordination rurale, éleveur, que nous allons en parler, et aussi avec Alain de Peretti, qui est vétérinaire. Bonjour, Monsieur Legras.
Bonjour.
Alors, vous êtes éleveur, si je ne m'abuse, donc vous avez un troupeau de combien de bêtes?
Non, je suis plus éleveur. Ah. J'ai été éleveur, mais justement avec les problèmes de prix il y a 5-6 ans, j'ai arrêté l'élevage. J'avais des bêtes à viande et on a arrêté l'élevage parce qu'il n'y avait pas ce retour d'investissement qu'on avait jusqu'à maintenant et qui semble fragile puisque on a depuis quelques mois là un tassement des prix, mais en fait on a arrêté justement par rapport à ces contrôles de bien-être animal, par rapport à une pression de l'administration qui ne voulait pas, en ce qui me concerne, qui ne voulait pas que voir de bêtes qui boitent, qui pensaient qu'elles souffraient, alors qu'en fait on gardait des bêtes avec le temps. Hein, c'est un peu comme les humains. Hein. À 3, 4, 5 ans, une bête qui fait des veaux, elle boite moins qu'une bête qui a 12, 13 ou 14 ans. Donc, ce bien-être animal, il est très subjectif. C'est-à-dire que on essaye évidemment, on aime nos bêtes, on essaye de les élever avec dans les meilleures conditions possibles, mais comme toute bête, elles ont des soucis de santé, elles vieillissent, elles boitent. Et donc, l'aspect du bien-être animal, c'est quelque chose de très subjectif.
Alors, c'est quelque chose de très subjectif et malgré tout, on voit bien que si jamais les bêtes sont élevées en stabulation, qu'elles sont serrées, qu'elles ne voient jamais le jour, que dans des bâtiments qui sont parfois conçus non pas pour des épisodes caniculaires, mais surtout pour les protéger des rigueurs du grand froid, il y a quand même de fortes chances que ces bêtes soient mal à l'aise.
Non, mais une bête qui est mal à l'aise, elle ne produit pas, elle ne grossit pas. Si elle souffre, c'est une bête qui n'a rien à faire dans un élevage. Donc, il y a toujours le contre-exemple. Hein, c'est un peu comme chez les humains, il y a toujours le contre-exemple. Mais aujourd'hui, l'élevage français est un élevage qui s'exporte par sa génétique. C'est un élevage aujourd'hui qui est reconnu de qualité. Vous avez quand même très peu de dossiers qui prouvent le mal-être animal. Mais oui, il y aura toujours le contre-exemple qui vous dira « regardez telle ou telle personne ou tel élevage ». Mais c'est vraiment pas le cas de la très, très grande majorité des élevages français parce que les éleveurs aiment leurs bêtes. Vous l'avez vu avec la dermatose où les gens ne voulaient pas qu'on abatte leurs bêtes parce que voilà, il y a comme une affiliation qui est créée entre l'éleveur et ses élevages. Et donc, comme dit le proverbe, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. C'est un peu ça. On trouvera toujours le contre-exemple. Mais essayons de défendre et de parler de la majorité des éleveurs en France aujourd'hui.
Alors, Alain Peretti, vous êtes vétérinaire. Comment est-ce que vous abordez cette question du bien-être animal?
Alors, c'est une question à la fois complexe et simple. C'est-à-dire que les animaux, comme l'a dit très justement M. Legras, pour qu'ils aient une bonne productivité, désolé de prononcer ce mot qui est un peu déshumanisant ou désanimalisant, ils ont besoin d'être dans les meilleures conditions. Donc, leur confort est prépondérant. Et il est certain que bon, j'ai exercé toute ma carrière en secteur rural. Et en général, les éleveurs, d'une manière générale, les éleveurs sont très attentifs à ça et en ont pris conscience. Hein, lorsque vous avez évidemment une stabulation, vous pouvez avoir une stabulation qui est bien tenue ou une stabulation qui est mal tenue. Vous pouvez avoir des animaux qui sont dans la boue et qui ne sont pas évidemment dans le confort. Il y a effectivement des cas qui sont d'ailleurs, je le souligne, le plus souvent, parce que je vois des vidéos de citadins qui viennent faire des reportages chez des éleveurs pour maltraitance, parce que les animaux sont mal tenus, mais ce n'est que la conséquence des circonstances économiques dans lesquelles on a mis les éleveurs, hein, qui sont dans l'incapacité de tenir, d'avoir ce confort pour les animaux. Et donc, d'une manière générale, notre élevage, qui est constitué d'élevage indépendant, c'est-à-dire des gens qui sont propriétaires de leurs animaux, qui ne sont pas donc des ouvriers agricoles, comme c'est la tendance évidemment avec ces grands élevages de type industriel, hein, les éleveurs donc sont globalement attentifs à ça. La chose, si vous voulez, bon, quand on en parle, et c'est un peu mon domaine puisque j'ai fondé une association dans ce but, c'est d'améliorer les conditions d'abattage notamment et de transport. Le bien-être animal, et c'est ce que je dis à des éleveurs qui ont des élevages modèles où les animaux sont parfaitement entretenus. Si vous envoyez votre animal se faire abattre à 1000 km de là, et si vous l'abattez en rituel, ou même dans certains abattoirs modernes, vous détruisez ce que vous avez fait en matière d'animal. Voyez, alors donc, les grands échanges, d'ailleurs, à ce titre, il y a des animaux qui voyagent sur des milliers de kilomètres, dans des camions, dans des conditions qui ne sont pas des conditions de confort, on l'admettra. Et c'est le fruit de cette mondialisation malheureuse, hein, bien sûr, que nous subissons tous. Alors, au niveau de l'abattage, si vous voulez...
Vous me permettez, Monsieur Peretti, on pourrait revenir sur l'abattage après, parce que voilà, on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Oui.
Je ne sais pas combien de temps...
On est ensemble jusqu'à 8h15, la question de l'abattage va revenir très tranquillement dans la conversation. Je voudrais revenir sur Monsieur Legras et justement lui demander quelle est la taille moyenne des exploitations des éleveurs indépendants en France. Est-ce que ce sont des troupeaux de 50 têtes, 100 têtes, 150?
C'est entre 100. On va prendre l'élevage laitier, les gens au niveau de la traite pour aller vers une robotisation pour garder une qualité de vie. C'est entre 50 et 80 vaches laitières. Donc vous multipliez par deux avec les jeunes bêtes et puis les naissances, grosso modo. Évidemment, il peut y avoir le double, mais on est loin des élevages d'Ukraine ou encore plus d'Amérique où on est sur des milliers de bêtes. Donc on est vraiment sur des élevages à taille humaine où on recherche la qualité, on recherche le suivi, les producteurs connaissent l'ensemble de leurs bêtes une à une. Donc on est vraiment dans, comme on dit, c'est dans une familiarité qui n'existe pas dans un grand nombre de pays. Et cette familiarité fait qu'il y a une sélection, il y a aujourd'hui la France expédie à peu près l'équivalent de 500 millions d'euros de génétique, aussi bien sur le lait avec la prime Holstein que sur des blondes d'Aquitaine, c'est-à-dire qu'on est reconnu justement pour un travail de qualité, pour un travail de sélection. Et donc, comme vous pouvez l'entendre chez n'importe quel éleveur, ça se fait pas en faisant n'importe quoi, en laissant les bêtes souffrir, en leur donnant n'importe quoi à manger. Donc cet aspect qualitatif, c'est l'ADN même de l'élevage français qui aujourd'hui souffre énormément, enfin a souffert et souffre énormément, on le voit pour le lait, d'un manque de reconnaissance. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel veut supprimer les bêtes, alors que l'herbe par elle-même, c'est un produit qui capte le carbone. Donc, il y a une mécompréhension à ce niveau-là des politiques et parfois une volonté de casser de l'éleveur qui est totalement gratique et infondée. Mais ça, c'est pareil. Faut que les gens aillent voir leurs éleveurs, aillent voir dans les fermes et se rendent compte que voilà, l'animal, c'est presque un animal de compagnie pour un grand nombre d'exploitations. Les gens, d'ailleurs, aussi. Comment dire, les vétérinaires sont appelés dès qu'il y a une bête qui souffre ou deux, voilà, pour regrouper à la rigueur. Mais on n'est pas comme dans des élevages où le vétérinaire, soit il est sur place en permanence parce que tellement il y a un nombre de bêtes, ou il est appelé quand il y a quelques dizaines de bêtes qui sont malades ou ils sont en train de mourir. Donc voilà, c'est toujours pareil. C'est deux, trois personnes qui parfois prennent la parole et cassent de l'éleveur ou de l'élevage français. Je vais prendre l'exemple de L214 ou d'autres. Je dis, on trouvera toujours l'exception qui confirme la très, très grande majorité où l'élevage français est un élevage modèle aussi bien sur la production, la qualité de la production et le bien-être animal.
Alain Peretti, en tant que vétérinaire dans votre carrière, voilà, vous avez visité des dizaines d'exploitations. Là, on parle de vaches laitières, mais évidemment, les porcs, les poules, enfin, l'ensemble des animaux d'élevage. Il y a pour toutes les productions françaises le même souci d'avoir en fait des producteurs autonomes, indépendants, qui sont responsables de leur eux-mêmes avec leur famille d'un troupeau qui n'arrive jamais à être gigantesque. On avait beaucoup critiquer la ferme des 1000 vaches qui paraissait être une espèce d'aberration et pourtant effectivement par rapport aux grands troupeaux australiens ou américains, ces 1000 vaches n'étaient rien. Vous avez pu constater vous-même que les paysans étaient particulièrement évidemment sensibles au bien-être animal?
Oui, bien sûr, c'est une évidence. Et justement, la structure de l'élevage français, qui était cette exploitation familiale, individuelle, ou ne serait-ce que par quelque chose, c'est quelque chose qui a été défini par un économiste comme Frédéric Bastiat, hein, c'est que la propriété entraîne la responsabilité de ce qui se passe. Et un éleveur, et je pense que c'est lié à la propriété privée qui est de moins, alors, qui est en matière agricole presque devenue un petit peu virtuelle par le biais de l'endettement, bien entendu, hein, puisque la hausse de l'endettement, je pense que M. Legras pourrait développer ce point, la hausse de l'endettement des agriculteurs les a mis sous tutelle et pratiquement en servage, hein, rétabli une certaine forme de servage au niveau, et qui fait disparaître, du reste, à mon sens, la possibilité, la liberté de l'éleveur, dans certains cas, de faire justement, d'être, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc il y a des éleveurs qui se trouvent dans des conditions d'endettement et d'assujettissement qui leur permettent plus de faire d'élever leurs animaux correctement. Mais c'est vous voyez, il y a tout un environnement qu'il faut décrypter, et je peux témoigner aussi, parce que j'ai un peu potassé la question, depuis le plan Sicomanscholt, hein, donc dans les années 70, jusqu'à maintenant, il y a une volonté d'écraser, avec le club de Rome, d'écraser notre élevage. Il n'y a pas que vous avez, Monsieur Legras, vous avez cité donc la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes qui disait qu'il fallait, récemment, ça a fait un peu de bruit, mais c'est une volonté qui est affichée depuis des années, des dizaines d'années, que j'ai vu s'appliquer peu à peu dans ma clientèle, J'en ai discuté avec mes clients parce que ça c'est aussi une des choses qui a fait que j'ai beaucoup aimé mon métier, puisque je suis à la retraite maintenant. C'est que un éleveur qui a une centaine de vaches, vous y allez très souvent. Hein, vous y allez très souvent, vous lui rendez visite très souvent ça devient en général des amis avec lesquels vous discutez d'autres choses finalement que les problèmes strictement techniques. Ça m'a donné justement matière à réflexion sur l'orientation et qui était donnée. Et donc ce plan, alors évidemment ça peut paraître complotiste de dire ça, mais il y a un plan d'éradication de nos paysans, de nos éleveurs, c'est une évidence. Pour moi c'est marqué noir sur blanc, hein, sur de nombre de documents.
On va y revenir, et justement, Monsieur Legras, comment réagissez-vous à ce que dit Monsieur de Peretti? Est-ce qu'il y a véritablement une espèce de double mouvement paradoxal du côté des pouvoirs publics? D'un côté, de lutte contre la petite exploitation, avec une fiscalité notamment de la transmission qui n'est pas adaptée, avec des ministères qui passent leur vie à essayer de regrouper et de ne traiter que de grands ensembles, et en parallèle, par exemple, une inflation des normes sanitaires qui fait effectivement peser un coût d'exploitation dantesque sur les plus petits.
Alors, vite fait, je vais revenir. Vous avez parlé de la ferme des 1000 vaches. La ferme des 1000 vaches, elle était à 25 km de chez nous puisqu'elle était à Abbeville. Moi, je suis de la Somme. La ferme des 1000 vaches était à la base sous l'égide d'un entrepreneur qui aimait l'agriculture. C'était un regroupement de plusieurs exploitations. Et cette ferme des 1000 vaches n'a jamais eu 1000 vaches déjà. Et même si aujourd'hui elle est arrêtée, elle a même arrêté l'élevage, c'était pas pour que les animaux soient en mal-être. Tout était neuf, tout était nickel. Donc voilà, je pense que c'est pareil. C'est des images qui sont transportées, et cette image, souvent, elle est dégradée par une partie des médias. Et quand j'ai une partie des médias, évidemment, c'est véhiculé par des associations. Qui sont animalistes, si on peut dire, mais qui sont basés sur rien. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, aujourd'hui, la protéine animale, c'est une demande et une nécessité. On l'a vu, aujourd'hui, il y a des écoles ou même des communes qui ont décidé de faire une journée végane sans protéines animales. Et en protéines animales, évidemment, c'est un des éléments les plus chers pour l'alimentation, et donc c'est ce qui pose aussi un problème dans la régularité pour les enfants, où c'est très important, ou pour les écoles, parce que c'est un produit qui est relativement cher pour définir la valeur du repas. Alors aujourd'hui, quand vous avez un repas qui grosso modo vaut 10 euros pour vos élèves et que vous faites payer, je vais prendre l'exemple puisque j'étais sur Paris, 13 centimes d'euros aux parents, et que de 13 centimes d'euros, vous dites, ou l'argument de la campagne électorale, c'est dire les enfants ne paieront plus rien, c'est sûr que l'augmentation du coût de la protéine en général et de la protéine animale fait qu'on rentre dans un dilemme. Et ce dilemme, c'est soit d'acheter les produits d'importation, ce qui est aujourd'hui le leitmotiv d'une Europe et on va dire d'une politique de la facilité, sans aucune transparence aussi bien sanitaire que du bien-être animal, mais on se donne bonne conscience parce que c'est des achats qui se passent à des milliers de kilomètres. Alors quand on bilan carbone, ça faut surtout pas en parler. Il faut en parler pour les ZFE ou pour le petit producteur français qui prend sa voiture diesel pour aller à la ville, mais il faut pas en parler quand c'est des milliers de mètres cubes de gasoil qui pollue et qui ramène la viande de milliers de kilomètres. Donc le problème aujourd'hui, la politique de la protéine, c'est une politique très importante. On a des gros groupes comme Lactalis, on va prendre le lait, qui représente 7 milliards, donc c'est des très gros groupes. Mais avec cette politique, on va dire de manque de visibilité, ben on a des groupes qui n'investissent plus autant qu'ils voudraient ou autant qu'il serait souhaitable en France. Ils préfèrent investir dans des pays où ils ont de la visibilité ou même ils ont des facilités. Donc, c'est à l'export et dans un grand nombre de pays. Et pareil, la génétique aujourd'hui, il faut savoir que cette génétique, à partir du moment où il y a moins d'éleveurs, Ben, il y a moins d'animaux parce que les gens, ils en font pas plus, hein, il y a une limite, hein, quand vous avez des bêtes que vous voyez tous les jours, vous pouvez pas les multiplier comme dans des élevages extensifs aux États-Unis ou au Brésil. Donc on a une baisse d'une valeur très importante de protéines qui est, comme j'ai déjà dit, véhiculée par une idée de méthane, enfin de gaz type méthane qui sont malvenants pour la vie de chacun d'entre nous, alors que c'est pareil, on prend qu'un élément et la captation par l'herbe d'une partie du carbone, ça on l'oublie. Donc c'est, comme on dit toujours, ce développement et cette ligne est donnée est totalement politique. Donc, elle est politique en France. J'étais encore hier à une réunion. Elle est une politique parce que on a décidé d'axer le développement de la France sur les loisirs. Donc, tout est basé sur les loisirs. Tout est basé sur le tourisme. Donc, l'agriculteur, ben, évidemment, s'il y a une bouse de vache, s'il bat, là, on va rentrer dans les moissons, s'il fait de la poussière ou qu'il y a des tracteurs, c'est un problème. Donc, voilà, on regarde que cet aspect politique d'une agricole qui, de toute façon, d'une agriculture qui, de toute façon, si elle n'est pas produite en France, et ben avec quelques camions ou quelques bateaux, on pourra nourrir les Français d'une autre manière. Donc voilà, le reste, on a un grand, vous voyez, on est en pleine loi d'urgence agricole. Bon, on en a fait trois ou quatre. On va encore accoucher d'une souris. On se balade. Elle était chez les députés. On les passe au Sénat. Elle va revenir aux députés. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est quand Monsieur Macron il décide de faire des data centers pour 75 milliards. Ben, ça passe crème. Lorsqu'il faut aider l'Ukraine de quelques milliards, ça passe crème. Mais même l'Afrique, même d'autres pays, même la Chine, hein, on l'a vu. Par contre, pour aider de quelques millions ou centaines de millions, 400 000 agriculteurs et l'ensemble des consommateurs français, là, c'est le chemin de croix. Donc ça, c'est la réalité. Donc le reste, bon, je répondrai à vos questions, mais tout ça, c'est
Merci.
uniquement du développement politique.
Alain de Peretti, d'une certaine manière, ce que dit Patrick Legras confirme ce que vous venez de nous dire. On n'a pas besoin d'être complotiste pour expliquer qu'il y a sinon un plan d'éradication de l'agriculture française, en tout cas une volonté de changer profondément le modèle de l'agriculture française.
Oui, ce plan existe depuis très longtemps, depuis les années 60 d'ailleurs. J'ai lu beaucoup d'éléments à ce niveau-là. Mais justement, la France, c'était une de ses forces de tout temps à jamais. C'était le fait qu'elle a toujours pu nourrir son peuple. Et justement, dans le cadre de ce plan, j'y reviens un petit peu. Il y a donc le but d'établir une dépendance, une interdépendance des pays, et donc de supprimer leur autonomie. C'est ce qu'on appelle l'arme alimentaire. Et Monsieur Legras soulignait justement le fait qu'on était le tourisme, etc. Et donc dans la planification mondiale, la France était dévolue aux services et au tourisme, hein. Et donc ce plan se met en, ce, quels que soient nos dirigeants, quelles que soient les tendances politiques, comme disait je sais plus qui, ce sont les politiques sont des détaillants qui se fournissent aux mêmes grossistes, hein. Et donc, on a toujours, et de façon inexorable depuis au moins 50 ans, donc, ouais, c'est ce que je dis à mes amis qui sont encore, qui sont en activité en tant qu'agriculteurs. Je préfère d'ailleurs utiliser le terme de paysan, hein, paysan parce que c'est quelqu'un qui habite un pays, hein, un agriculteur, c'est une profession. Hein, bien sûr, mais un paysan, c'est quelqu'un qui habite un pays, qui tient ce pays. Et je leur dis, vous battez avec, vous essayez et je le dis à ceux qui se battent, notamment des gens de la coordination rurale que je connais bien, je leur dis, vous battez contre des gens qui veulent votre mort, qui ont décidé votre mort et qui feront tout pour vous faire mourir. Voilà. Et donc cette logique entraîne ipso facto, à mon sens, puisqu'on est le thème c'était la souffrance animale, entraîne un mépris pour l'animal qui devient une composante d'un tableau Excel, vous voyez, à la limite. Et on pourrait peut-être évoquer aussi à ce titre la viande artificielle, hein, puisque effectivement la protéine animale est indispensable à la santé. Hein, les véganes sont des fous furieux, hein, qui sont des citadins qui, pour compenser les carences, évidemment, vont prendre des comprimés, notamment de vitamine B12. Et la protéine animale est indispensable. Et il faut faire. C'est un principe de réalité. Hein. Et comme le dit André Bercoff, le réel enfonce la porte. Hein. Il est en train d'enfoncer la porte à l'heure actuelle. Et on est en train de se rendre compte, justement, de toutes les aberrations, notamment idéologiques, qui ont été mises en place depuis trop d'années et qui insidieusement nous ont amenés dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant.
Eh bien, nous allons y revenir après la chronique d'Alexis Poulain, qui est tout de suite. Et donc, restez avec nous, Patrick Legras et Alain de Peretti.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et donc, Alexis Poulain va venir avec nous. Nous avions deux possibilités. Soit il nous parlait de Macron, soit il nous parlait de l'Ukraine, soit il nous parlait de Macron parlant de l'Ukraine.
Bonjour. Ah bah oui, effectivement. Macron, j'ai pas regardé. Je sais pas vous, mais j'en peux plus. Ça n'en finit pas. Un double quinquennat qui finit évidemment avec la guerre en Ukraine. Comment ne pas parler de l'Ukraine sans parler de Macron, sans parler des deux. Il a deux sujets finalement pour clore ces 10 ans. Plutôt que de faire un bilan, parce que ce serait sans doute trop dur pour assumer et d'ailleurs pour lancer ses poulains dans la course à 2027. Emmanuel Macron n'a plus que deux sujets. La censure des réseaux sociaux, appelée communément la protection des moins de 16 ans et l'interdiction de l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux, qui est en fait tout simplement un flicage de tous et une demande de pièce d'identité pour accéder à Internet. Et l'Ukraine, la guerre qui n'en finit pas, avec cette fois-ci le choix de l'Union européenne de l'escalade en autorisant l'Ukraine a ses frappes dans la profondeur, comme ils appellent ça, c'est-à-dire exporter la guerre sur le territoire russe et pas seulement sur le territoire ukrainien. On est au-delà de la co-belligérance. Je pense qu'on est en train de rentrer dans un territoire plus que gris, où tout est permis et tout est possible parce que cette guerre ne doit pas finir pour ceux qui sont à moins de 20% d'opinion favorable dans leurs opinions publiques. Je parle bien sûr d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer et du chancelier allemand Friedrich Merz. Ces trois-là ne tiennent que parce qu'il y a la guerre en Ukraine et ils souhaitent bien qu'elle dure le plus longtemps possible. C'est le cas d'Emmanuel Macron, malheureusement, qui était fier, encore une fois, de défendre ce bilan qu'il n'a pas. Et puis, toujours cette autosatisfécite, hein, finalement, la France, tout va bien, que ce soit sur l'IA, que ce soit la vassalisation technologique en faveur des États-Unis, que ce soit l'emploi, que ce soit tout est génial. La diplomatie française est géniale. C'est grâce à Macron que Trump a signé ce cessez-le-feu en Iran. Bref, comme d'habitude, hein, j'ai l'impression que ça n'avance pas et que ça ne changera pas. Le pire étant que nous avons des candidats à la présidentielle qui n'assument pas ce bilan et qui se présentent pourtant sous les couleurs du parti unique, hein, ce parti européiste centriste qui a mis la France dans cette situation d'impasse totale où elle est actuellement. Et visiblement qu'il y a des candidats aujourd'hui qui issus de ce camp, hein, Gabriel Attal, Édouard Philippe, pour ne citer qu'eux, mais on pourrait dire que Raphaël Glucksmann fait également partie de ce camp. Eh bien, ça ne gêne personne, comme si finalement c'était normal de continuer la destruction de la France, sachant que dorénavant, vous allez voir que les discours de haine vont servir, bien sûr, de délit d'opinion et de censure de la parole publique. On le voit déjà avec les nombreux procès qui sont attentés aux personnalités de droite, hein, le plus souvent, parce qu'elles ont osé parler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui clairement un théâtre d'opération et de manipulation de grande ampleur, parce que c'est là que se perd tout pour ceux qui sont les tenants du système.
Alors, ces réseaux sociaux, Emmanuel Macron se félicitait qu'il y ait un mouvement mondial. Alors, il n'a cité évidemment que les pays dits occidentaux, et donc ceux qui font partie de l'Union européenne ou ceux qui font partie du Commonwealth. On a l'impression que le reste de la planète, bon, la Chine quand même communiste, voilà, qui est un exemple évidemment pour tous les capitalistes européens en matière de surveillance. On a l'impression que le reste du monde est un peu moins excité sur la défense de l'enfance à travers l'interdiction des réseaux sociaux.
Alors, il ne s'agit pas de défendre l'enfance, il faut le marteler, puisque Emmanuel Macron veut que cette loi soit votée avant le 15 juillet. C'est maintenant ou jamais que nous devons mobiliser l'ensemble des Français pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas de la défense de l'enfance, mais d'un flicage généralisé de tous. C'est-à-dire, vous n'aurez pas accès à Internet si vous ne montrez pas votre identité. C'est rien d'autre que cela. Alors, c'est un plan mondial qui a été élaboré à Davos, comme d'habitude, où ils se sont mis d'accord. Le G7 n'a été là que pour entériner, mais vous avez, par exemple, les Émirats Arabes Unis, hein, qui sont rentrés dans la le Canada qui souhaite aller encore plus loin en termes de censure de la parole sur les réseaux sociaux, au-delà même de la censure de l'accès aux réseaux sociaux. Et donc, on voit bien que cette politique globaliste, hein, elle s'impose à de nombreux pays alors qu'ils n'ont pas choisi. Encore une fois, je rappelle que les leaders qui sont en train de mettre en place ces changements de régime, hein, puisqu'il est question d'un nouvel ordre mondial, sous la censure et sous une sorte de proto-gouvernement européiste, eh bien, ces leaders-là sont à moins de 20% d'opinion favorable. Keir Starmer, en Grande-Bretagne, étant un des pires, puisqu'il refuse de se confronter à la dure réalité hein, des gang rapes, de ce qui s'est passé avec les Pakistanais et la traite humaine, alors que lui-même était au ministère de la Justice à l'époque. Et donc, on est là dans un moment critique, où on voit bien qu'il y a une politique qui se décide au-delà des peuples, au-delà même de ces mauvais acteurs qui sont des dirigeants, et où ils appliquent simplement un ordre venu d'on ne sait pas trop où, mais où maintenant il est clair que Internet doit être contrôlé, surveillé, régulé, et tout ça pourquoi ? Pour tenir un ordre de la corruption et de l'injustice.
Alors, merci d'avoir remis l'église au milieu du village. Malgré tout, on a l'impression que la résistance est en train de s'organiser et que le peuple n'a pas l'air décidé à se laisser contingenter. Et il y a bien sûr d'un côté une sphère médiatique officielle qui est en train d'expliquer que c'est absolument admirable, mais sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, on voit bien que les peuples ne sont pas du tout d'accord sur l'idée que leurs expressions de mécontentement ne puisse être assimilé qu'à des discours de haine.
Oui, c'est clairement le cas. D'ailleurs, la Grande-Bretagne est le fer de lance hein, de ce rejet profond hein, de cette politique de censure. Il faut voir quand même, moi je suis outré de voir qu'un pays comme celui-là se laisse faire par Keir Starmer, qui n'a pas été élu sur cette base de la censure de la parole publique et qui fait croire que c'est ce que veulent les Anglais. Or, les Anglais, on les voit tous les week-ends dans la rue, des manifestations monstres pour dire stop, stop à la censure, en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne. En France, on a l'impression que c'est beaucoup plus calme, mais la révolte gronde, elle s'organise évidemment. Il faut faire comprendre à ceux qui ne veulent pas comprendre, à ceux qui ne s'informent pas, qu'il n'est pas question de protéger les enfants avec ces lois, mais qu'il est question simplement de fliquer tout le monde sur Internet parce qu'il faut censurer l'Internet libre, il faut censurer la parole libre sur les réseaux sociaux, sans quoi cet ordre, et je le rappelle, un ordre de la corruption et de l'injustice, ne pourra pas durer très longtemps. Or, il dure très longtemps par apathie, par fatigue, et aussi par collaboration de certains qui y voient tout à fait leur intérêt.
Et aussi par peur, parce que malgré tout, on voit bien l'État est capable d'être horriblement violent avec les gilets jaunes, avec les paysans. Ouais. Des dizaines de nationalistes ont vu leur compte en banque supprimé. Des entreprises de droite ont vu leurs comptes sociaux supprimés. Et il y a une espèce de mort sociale qui plane au-dessus de ceux qui s'opposent.
Oui, on a déjà changé de régime, en quelque sorte, vous venez de le dire. Même pas ceux qui s'opposent, ceux qui parlent. Ceux qui parlent doivent être condamnés. Or, dans une démocratie libérale, qui est censée, jusqu'à présent, être notre régime, la parole est libre. La parole, elle est encadrée par la loi, évidemment, sauf que la loi devient de plus en plus coercitive et qu'elle est de plus en plus floue. Et c'est bien tout le problème. Hein. Ce principe de discours de haine permet de mettre tout et n'importe quoi dans un paquet pour empêcher les gens de dire simplement le réel. C'est le cas d'un chercheur en Allemagne hein, qui a simplement rappelé certains faits qui étaient véridique, affirmé, mais la justice a jugé que c'était quand même sujet à poser des troubles à l'ordre social. Et au nom de l'unité nationale, de l'ordre social, eh bien on ne peut plus dire les choses, on ne peut plus parler, on n'a pas le droit. C'est insupportable et ça veut dire clairement une chose, nous changeons de régime politique, rien d'autre. Et nous rentrons dans une dictature, même si elle n'en prend pas le nom, mais une dictature de la pensée unique, c'était déjà le cas il y a longtemps. Elle s'accélère, elle se muscle, elle devient dangereuse pour nos libertés, toutes nos libertés. Et aujourd'hui, une des priorités de tous les candidats soi-disant affichés à la présidentielle qui seraient dans l'opposition devrait être la défense de ces libertés.
Merci beaucoup Alexis Poulain, restez avec nous, défendre la liberté, défendre la libre expression, c'est exactement le combat de Radio Courtoisie, et bien pour ça il faut être soutenu, n'hésitez pas, soutenez-nous, et d'ailleurs Arnaud a une recette infaillible.
Une recette infaillible, vous avez raison Richard. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, rendez-vous sur soutenir.rc.fr afin de nous faire un don en ligne, et puis si vous souhaitez nous envoyer des chèques, et bien vous pouvez le faire également par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Merci d'avance et on compte sur vous.
Et ligne droite,
nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Et ce face-à-face, donc, c'est avec Patrick Legras, donc président de la coordination rurale des Hauts-de-France, Alain Peretti, vétérinaire, et donc Alexis Poulain qui reste avec nous. Nous parlions de la souffrance animale et évidemment, nous sommes arrivés à la taille des exploitations françaises et à la manière dont l'État français, d'un côté, fait peser des législations de plus en plus lourdes, des réglementations de plus en plus lourdes sur les petites exploitations qu'il ne favorise pas, et de l'autre, donc, on se retrouve avec des paysans qui essayent de développer un modèle parfaitement humain, parfaitement familial et même familier, pour reprendre l'expression de Patrick Legras, dans la manière de traiter les animaux, et évidemment qui sont incapables de concilier d'un côté la mondialisation qui déverse à bas prix des protéines animales en grand nombre, de l'autre, ce modèle familial, et enfin du troisième, ces injonctions contradictoires d'un État qui prétend sauvegarder la ruralité et les sons et les odeurs du patrimoine français, et donc, puisque voilà, maintenant on défend le champ du coq tout en faisant en sorte qu'il soit devenu très compliqué pour quelqu'un de gagner sa vie avec un poulailler. Alexis Poulain, sur cette souffrance animale, avez-vous l'impression que on est dans un monde un peu bizarre où d'un côté on essaye de faire en sorte qu'aucun animal ne souffre, et en accusant ceux qui malgré tout ne sont absolument pas les bourreaux des animaux, comme s'il était nécessaire pour le Parisien en goguette dans la campagne de ne voir que des chèvres décorées de rubans?
En fait, c'est encore une fois, c'est toute la schizophrénie contemporaine, c'est-à-dire qu'on va favoriser par les politiques publiques et par le choix de tuer la paysannerie des maxi-exploitations, hein, des fermes de je ne sais pas, des élevages de je ne sais pas combien de millions de poulets, les milliers de vaches, etc., où la maltraitance et la souffrance animale est le lot quotidien, et même l'organisation industrielle, hein, de la mort de ces animaux. Et de l'autre côté, on va traiter les petits éleveurs comme de dangereux criminels qui n'acceptent pas de vacciner leurs vaches pour un virus qui n'est pas mortel, et où même vacciner la vache doit être tuée, hein, si jamais il est considéré par le préfet que c'est nécessaire. Donc on est là dans une guerre, encore une fois, contre les peuples, cette fois-ci contre la paysannerie, parce que l'État ne supporte pas en fait tout ce qui est libre, la parole, mais aussi les paysans qui ne dépendraient pas simplement de la PAC, qui ne deviendraient pas des fonctionnaires de l'Union européenne, ils sont dangereux. La médecine libérale aussi, on a vu les médecins transformer ces dernières années en fonctionnaires, hein, qui remplissent des fiches. Tout est fait pour empêcher les marges et empêcher ce qui pourrait demain devenir une opposition à cet État central devenu dictature, puisque c'est ce qui se profile à l'horizon 2030 si rien n'est fait pour arrêter cette course. Donc, encore une fois, on inverse les valeurs, on traite ceux qui aiment leurs animaux et font attention de criminels, et on encourage des exploitations industrielles où la souffrance animale, évidemment, sera l'eau, tout en interdisant d'ailleurs le travail de militants écologistes, hein, d'aller filmer à l'intérieur de ces lieux pour dénoncer lanceurs d'alerte qui sont traités eux aussi comme des criminels. Des lois en ce sens ont été votées.
Alain Peretti, c'est peut-être le moment donc de continuer la chaîne de production industrielle, en voyant bien d'ailleurs que c'est justement ce caractère industriel qui est peut-être le plus prégnant quand on parle de souffrance animale. Voilà, le petit éleveur n'a aucun intérêt à maltraiter ses bêtes. En revanche, évidemment, la grande industrie a intérêt à faire du chiffre, a intérêt à avoir de grandes densités. Et donc c'est dans le transport et l'abattage qu'on voit la perversité du système industriel, du système de de masse par rapport au système individuel où chaque bête a un nom et voilà, où personne n'a envie de maltraiter Caroline parce que voilà, Caroline, comme le disait Patrick Legras, fait partie de la famille. À partir de quel moment le transport et l'abattage sont-ils devenus vraiment des sujets de souffrance animale?
C'est-à-dire que c'est la logique des échanges à tout prix, hein, qui, donc la mondialisation malheureuse, qui amène à, là aussi sur des tableaux Excel, on dit on exporte tant de viande, tant d'animaux, etc. Le problème, c'est que, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, une maladie professionnelle, hein, donc... notamment, donc, on voit des animaux qui traversent toute l'Europe et pour aller se faire abattre et dans des conditions qui sont absolument contraires à une bonne gestion et un bon respect de l'animal, puisque c'est un manque de respect parce que autrefois, c'est ce qu'on va appeler le localisme, que certains appellent le localisme, c'est-à-dire qu'avant, autrefois, donc, les animaux allaient se faire abattre, ils étaient abattus soit à la ferme, bien entendu, soit dans des abattoirs qui étaient à proximité. Le nombre d'abattoirs a considérablement diminué, là aussi, sous la pression de normes sanitaires, et parce qu'il n'était plus rentable, justement, avec tous les travaux qu'on leur imposait. Et donc, peu à peu, donc cette partie est devenue quand même quelque chose qu'on oublie et qui est exploitée d'ailleurs par certaines associations comme L214, qui sont des associations escrocs, ce sont des escrocs, pour justement faire avancer un agenda vegan. Et ils exploitent des photos et alors des vidéos évidemment qui sont souvent insoutenables. Et je voudrais parler justement, ça c'est un de mes dada et malheureusement je n'ai jamais réussi dans mon combat pour l'instant à faire avancer cette chose-là. Il y a aux États-Unis, hein, les États-Unis ont quelquefois de bonnes choses. Une méthode, donc un équipement d'abattoir qui est utilisé par 50% au moins des abattoirs, qui est devenu pratiquement un label de qualité, c'est la méthode de Temple Grandin. Je vous invite tous à regarder un petit peu les vidéos sur le sujet, sur cette méthode, parce que Madame Temple Grandin est une dame qui a mon âge d'ailleurs, elle est née en 1947 comme moi, et donc qui est autiste, et qui à ce titre-là, donc quand elle a visité la première fois un abattoir, elle a ressenti ce que les animaux ressentent. Et elle a mis au point un système qui permet de diminuer, voire même d'atténuer de façon considérable le stress des animaux, donc lors de l'abattage, et qui n'est pas très onéreux d'ailleurs, et qui permettrait, et si on le mettait en place, d'améliorer ce point-là. Et puis, donc, ça c'est mon dada aussi, puisque j'ai une association dans ce sens, donc il faut interdire totalement l'abattage rituel, qu'il soit halal ou kasher, parce qu'on ne peut pas saigner un animal, hein, donc le faire mourir, sans l'avoir préalablement anesthésié, donc sans l'avoir supprimé, sans l'avoir étourdi, sans l'avoir assommé. Quand on voit la différence entre les deux abattages, et j'ai été un certain temps inspecteur d'abattoir, et je peux dire qu'il y a une différence qui est phénoménale. Et malgré tout ce qu'on fait, et on accepte peu à peu donc cet abattage qui est devenu, alors sous prétexte de dérogation, mais en fait les abattoirs, parce que c'est compliqué à mettre en place d'avoir deux chaînes d'abattage, pratiquent pour certains, donc comme l'abattoir de Meaux, Seine-et-Marne, hein, contre lequel j'avais intenté un procès qui a duré 10 ans, que j'ai gagné donc en appel devant le tribunal administratif, mais qui n'a pas été que la préfecture a refusé d'appliquer. Voilà, donc c'est un combat qui est global et en fait, on retrouve à la base de tout ça l'affairisme. C'est-à-dire que que ce soit d'ailleurs les humains ou les animaux, ne sont plus considérés comme des êtres, comme des créatures, si j'ose dire, des créatures qui doivent être respectées, hein, puisque les humains sont pas, quelquefois pas mieux traités que les animaux. Sur le plan global, on l'a bien vu, notamment avec le Covid.
Merci Alain Peretti. Patrick Legras, la dernière question est pour vous. Donc, cette souffrance animale, est-ce un problème suscité par le politique pour être une fois de plus une arme contre la petite exploitation ou est-ce un véritable sujet de société ?
Les deux. Je pense que le sujet de société, aujourd'hui, il est surtout fondamental pour les gens qui ne veulent plus d'élevage en France. Donc, comme on a dit, on a tapé sur les gaz à effet de serre à base de méthane, puisque les ruminants en émettent. On tape sur le mal-être animal. On a vite fait le tour, hein, à partir du moment où la France est quand même un des modèles résilients, aussi bien pour son agriculture en général, mais pour son élevage, où on vend à peu près de la génétique française dans une cinquantaine de pays. Et en fait, tout ça est fait avec la main sur les yeux pour regarder comment peuvent vivre ou comment peuvent être élevés les produits laitiers ou les produits enfin les viandes dans des pays qui traversent la planète. Donc, sans énervement, on va dire que c'est encore une fois de la mauvaise foi, mais bon, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Aujourd'hui, toutes ces ONG sont financées par qui ? Elles sont financées en grande partie par des moyens financiers d'autres pays qui veulent continuer à importer ou à exporter un peu plus pour que la France soit totalement et l'Europe soit totalement dépendante au niveau alimentaire. Donc les politiques, surtout là, un an des élections. Ben, ils font gros dos, ils font ceux qui n'entendent pas, ils veulent ceux qui veulent prendre des décisions, qui veulent plaire à tout le monde. Mais il faut savoir une chose, et ça sera la synthèse, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole, par rapport au monde de l'écologie punitive ou de l'écologie en général, on représente 5 ou 10 %. Donc les gens, ils vont aller vers la facilité, donc vers ceux qui crient beaucoup et qui peuvent leur apporter des voix plutôt que d'aller vers un monde agricole qui aujourd'hui est en perte de vitesse, qui aujourd'hui est à la campagne, donc ne représente pas une grande partie des politiques qui sont à la ville. Et on verra, comme dit le proverbe, on verra après les élections. Mais aujourd'hui, tout ça est totalement politique et cette politique, elle fait le bonheur de personne parce que le Français, ben, il a dans son assiette quelque chose souvent qu'on ne maîtrise pas, où on lui dit pas la vérité, son voisin, s'il peut être un éleveur, ou son voisin qui peut être à la campagne, on lui tape dessus, on lui met des normes, il a du mal à en vivre, et en fait, de plus on avance, moins ça devient un modèle de société du bien-vivre français. Parce qu'à partir du moment où, comme on disait, il y a plus d'argent, la rémunération n'est pas juste par rapport au travail fourni et par rapport à la qualité sortie, et ben il y a que deux solutions. Soit on importe, soit on ne vend plus ou on ne consomme plus de protéines animales. Et ces protéines sont produites par d'autres pays à travers essentiellement la planète, puisque l'Europe n'en veut plus en général, ou par l'Ukraine, puisque l'Ukraine est un moyen, on l'a vu par le poulet, de rentrer des protéines de façon à très bas prix et ça continue à se développer. Donc, je vous répète, le problème aujourd'hui, la nourriture ne compte plus. C'est ce que j'ai dit la dernière fois sur un plateau à une personne. Il faut que les gens puissent manger. Donc, on va, pour les jeunes, souvent, il n'y a qu'un repas, c'est le repas de midi. On va à l'école, on va faire la gratuité du repas. Alors, ça fait que le consommateur ou l'enfant, on lui dit de toute façon manger c'est gratuit, bon ben ça devient une formation, une habitude. Et comme j'ai pu dire à nos politiques, ils n'ont pas les moyens de payer 13 centimes de repas sur les 10 euros que ça coûte, mais par contre, ils ont tous un téléphone portable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le système sociétal fait que la nourriture n'est plus devenue un fondamental de notre vie. Les fondamentaux, ils sont véhiculés par d'autres idées. Et peut-être que, enfin, au moins, j'espère que dans les mois ou dans les années qui viennent, on va refaire la bascule vers le fondamental, parce que bien se nourrir, bien vivre, c'est aussi être moins malade, et c'est aussi une charge pour la société et une façon d'appréhender la vie qui peut se redécouvrir. Et le bien manger aujourd'hui peut être vraiment un élément du bien vivre et du vivre autrement.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Legras, merci beaucoup Alain Peretti, merci Alexis Poulain, et nous reviendrons sans doute sur cette question du bien-être animal et ses développements pour la paysannerie française. À très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Voilà, dans quelques instants, la chronique de Pascal Pointu, mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Alexandre.
Le G7 d'Évian s'est achevé, il est temps d'en tirer le bilan. À noter d'abord un énième retournement de veste de la part de Donald Trump sur le dossier russe, qualifiant Poutine de loser et Zelensky de winner. De même, l'intelligence artificielle et les questions technologiques ont beaucoup occupé les discussions. Puis une quinzaine de pays dont la France ont signé la déclaration de Mombasa cette semaine au Kenya, déclaration d'intention de lutte contre la pêche illégale qui vide les océans. Elle est néanmoins un échec, de fait ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon ne l'ont signée. Et l'influenceuse identitaire Thaïs Descuffon a été condamnée hier à 1000 euros d'amende pour avoir déclaré sur BFM TV en 2023 que les principaux responsables des agressions contre les femmes étaient les hommes d'origine noire et arabe. Et enfin, nous fêtons aujourd'hui la Saint-Jude, Saint-Romuald et Saint-Rémy-Isoré et Modeste Andlauer.
Merci beaucoup Alexandre.
Ligne droite.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite, débattons-en.
Et débattons-en de quoi ? Eh bien du périscolaire parisien, puisque Julie Solveig, qui mène l'enquête depuis plusieurs semaines, revient avec de nouvelles révélations. Alors bonjour Julie.
Bonjour Richard.
Voilà, donc vous venez nous voir pour nous parler de ce scandale du périscolaire parisien. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé un animateur d'une école parisienne poursuivi pour agression sexuelle, en estimant que l'infraction n'était pas assez caractérisée. Mercredi, le parquet a annoncé, heureusement, faire appel de cette décision. Au regard de cette relaxe qui a vraiment scandalisé tout le monde, les élus comme les parents évidemment et les associations de défense, vous revenez aujourd'hui avec de nouveaux éléments.
Oui, depuis mon dernier passage ici, où j'étais venue vous présenter en détail mon enquête sur le recrutement des animateurs dans le périscolaire parisien, on peut dire en effet qu'il s'est passé plusieurs choses, à commencer, comme vous le disiez à l'instant, par cette relaxe délirante d'un animateur accusé pourtant de faits avérés, on y reviendra. Mais il y a aussi autre chose qui est légèrement passée à la trappe, la sortie d'Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, qui a annoncé qu'il portera systématiquement plainte au pénal contre ceux qui accusent la ville de Paris de recruter des pédocriminels ou d'avoir dissimulé des affaires de pédocriminalité. Alors je ne vous parlerai pas de faits dissimulés ou cachés, mais nous en parlions en off ensemble. Lorsque j'ai commencé à me lancer dans ce nouveau volet de mon enquête, je vous ai annoncé avoir découvert beaucoup de non-dits qui justifieraient aujourd'hui la fébrilité des institutions concernant ce scandale et ces menaces de plainte au pénal.
Alors ces non-dits justement, quels sont-ils ?
Alors le tout premier, et cela est criant, c'est que les enfants sont peu entendus, pour ne pas dire très très peu entendus. Leur parole n'a au fond que peu de valeur, leur corps non plus, et c'est finalement à eux de montrer patte blanche lorsqu'ils accusent un adulte de les avoir agressés. Laissez-moi vous donner deux exemples pour appuyer mon propos. D'abord celui des guides pour enfants distribués à la fin des années 90. En 97, quand Ségolène Royal devient ministre de l'enseignement scolaire, elle décide de faire distribuer à chaque enfant un guide pour leur apprendre à se protéger. Protéger leur corps, savoir ce qu'il est possible de faire avec eux ou non, et surtout, leur apprendre à parler en cas de problème. Eh bien ces guides ont tout bonnement été supprimés sans que l'on sache pourquoi. Écoutez Ségolène Royal expliquer cela au micro de Guillaume Play dans le média Légende.
Et quand je deviens d'ailleurs ministre de l'enseignement scolaire, je me souviens de cette leçon, et tous les enfants recevaient un guide, et je vois là qu'il y a une vraie régression, parce que pour que des enfants subissent des violences sexuelles pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça veut dire qu'ils ne sont pas crus, et que les parents n'ont pas été sensibilisés à ce sujet. Ça me met en colère, parce que les outils pédagogiques, ils ont existé à un moment, et ensuite ils ont été supprimés.
Pourquoi c'est supprimé?
Pourquoi c'est supprimé? Surtout que c'est du travail.
C'est du bon sens.
En 98, j'étais ministre de l'enseignement scolaire et j'ai fait, souvenez-vous, à la fois la circulaire contre les abus sexuels. D'ailleurs, j'ai été auditionnée récemment à l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles. J'ai fait les premières circulaires contre les abus sexuels. J'ai fait les premiers outils pédagogiques dans l'école. Je suis allée au Canada, qui était le pays le plus en avance sur ces sujets-là. Et j'ai rapporté du Canada ce petit livre qui était distribué à tous les enfants des écoles, dès l'école maternelle, et aux parents surtout, pour dire aux enfants, je te crois, je te crois, tu vas être protégé, tu as bien fait de parler. Et souvent le crime est tellement horrible que les adultes qu'ils font comprendre dans le mécanisme psychologique, c'est qu'un enfant qui n'est pas cru ni par ses parents, ni par ses enseignants, c'est parce que les adultes s'auto-protègent contre ce crime horrible.
Autre exemple pour vous montrer à quel point les enfants ne sont pas entendus, laissez-moi vous lire une partie du communiqué de presse diffusé par le tribunal judiciaire de Paris à la suite de la relaxe de l'animateur Nicolas G, poursuivi donc actuellement pour agression sexuelle et harcèlement sexuel sur, je le rappelle, 9 mineurs âgés de 9 à 10 ans de l'école Titon à Paris. Je vous lis. Les faits de harcèlement reproché correspondait à l'attribution de surnoms comme « la plus belle »,« mon cœur »,« la délicieuse »,« mon bébé d'amour »,« mon chaton », »,« mon trésor », en leur imposant de longs câlins de manière régulière sans leur demander leur accord. Il était également reproché à l'animateur d'avoir raconté des histoires impliquant des viols, en réalisant des gestes à connotation sexuelle, de leur avoir fait dessiner des dessins manga de femmes dénudées et d'avoir dit à l'une d'elles « je te ferai des bisous partout si je pouvais » en la prenant sur ses genoux. Le tribunal a considéré que l'animateur avait bien tenu ses propos, porté des gestes et interpellé les enfants de façon inadaptée. Je vais plus loin. Le tribunal a jugé que si ce comportement s'était avéré inapproprié, comme étant en décalage avec le positionnement attendu dans le contexte de l'animation scolaire et l'âge des élèves, il n'avait pas été démontré qu'il relevait d'un caractère humiliant ou dégradant, ni n'avait pour finalité propre la dégradation des conditions de vie des élèves. Fin de citation. En clair, par cette décision, la justice approuve de manière tacite que de longs câlins imposés à des enfants, je rappelle qu'il y en a quand même 9, ne relèvent pas d'une infraction. Pour approfondir mon propos, j'ai contacté le collectif SOS Périscolaire et sa fondatrice Anne dénonce une décision incompréhensible et insoutenable.
Alors évidemment, cette relaxe, elle est à la fois incompréhensible et insoutenable. Incompréhensible pour nous, SOS Périscolaire en particulier, parce qu'on a des affaires qui font référence pour nous, c'est-à-dire par exemple à Chambéry, on a une affaire où il y a eu des baisers sur la bouche, l'agression sexuelle a été retenue et l'animateur a été condamné. On a une autre affaire dans le Nord où il y a eu des câlins forcés et répétés, comme dans cette affaire Titon, sur laquelle vous me questionnez, ainsi que du léchage d'oreilles. Là également, l'agression sexuelle a été retenue et l'animateur condamné. Pourquoi est-ce que dans cette affaire Titon, toucher la poitrine d'une enfant n'est pas retenu comme une agression sexuelle? Et pourquoi cette relaxe alors même qu'effectivement, comme vous le disiez, le tribunal n'a pas remis en question les faits, a considéré que c'était des faits et des gestes et des paroles inappropriées? Donc, ça revient à dire que oui, nous considérons que c'est inapproprié, mais nous ne condamnons pas. Donc, pour nous, c'est acceptable que des enfants subissent des gestes et des paroles inappropriées. C'est de ce point de vue-là que c'est intolérable et inentendable, notamment pour les parents. Pour eux, ces gestes n'étaient pas assez dégradants pour les petites filles. Et puis, il y a aussi cette chose assez abominable à nos yeux qui a été de dire qu'en fait, le retentissement psychologique de ces fillettes, finalement, pourrait être plus causée par la médiatisation de l'affaire que par ce qu'elles avaient subi. Ce qui est assez abominable parce que, évidemment, nous, on le sait, ces petites filles, elles ont déjà beaucoup souffert bien avant que l'affaire ne devienne médiatique, et encore que je ne crois pas que leurs parents les aient laissées devant les infos et les chaînes en continu, sachant que cette affaire n'a pas fait les gros titres. Donc, en réalité, on se cache derrière quelque chose dans cette affaire qui nous échappe également.
La question se pose en effet dans cette affaire du pourquoi, dans ce cas-là précis de l'école Titon, l'animateur a eu le droit à la « bienveillance » entre guillemets des juges.
Non, justement, Julie, pourquoi? Vous avez une idée? Comment expliquer cette décision qui est quand même aberrante?
Alors, je ne vais pas vous répondre avec certitude, c'est parce que ça, ce serait malhonnête de ma part, mais on peut supputer que ce scandale est particulièrement épineux pour la mairie de Paris, comme pour les juges, et qu'il vaut donc mieux éviter de soulever trop le couvercle. On en vient là au deuxième et troisième non-dit dont je vous parlais tout à l'heure. 1. Je ne vais pas m'attarder trop dessus, car vous en avez déjà régulièrement parlé à l'antenne, mais ce scandale aurait pu être évité. Je rappelle en effet que des élus avaient alerté la mairie de Paris il y a déjà 11 ans, en avril 2015. Le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, avait pris la parole le 14 avril 2015 face à Anne Hidalgo et son adjoint de l'époque, Emmanuel Grégoire, pour alerter sur les dysfonctionnements du recrutement des animateurs. Emmanuel Grégoire avait alors assuré que tous les profils avaient été vérifiés et que tout était sous contrôle. Troisième non-dit qui sans nul doute embête la mairie de Paris, là c'est Inès de Raguenel, conseillère de Paris et vice-présidente du groupe Paris Liberté au Conseil de Paris, qui le révèle. La mairie de Paris a menti pendant des mois aux élus et aux familles concernant le passé d'un animateur aujourd'hui en détention provisoire, soupçonné de viol.
La deuxième chose, c'est sur ce parcours des animateurs, des deux animateurs dont je parle, qui viennent du 7e, qui sont en détention provisoire et dont vous le savez, vos RH savent par quelle école ils sont passés avant. Pourquoi la CASP 715, droit dans les yeux, nous a dit qu'en l'occurrence, l'animateur passé par le 15e, enfin déplacé dans le 15e puisqu'il fallait lui offrir une seconde chance, cet animateur n'avait été dans aucune autre école du 15e. Pourquoi nous l'avoir dit comme ça en mentant droit dans les yeux? 15 écoles à eux. 15. Qu'est-ce qu'on dit demain aux familles, là? Enfin, vous vous rendez compte dans quelle situation on nous met? Ce n'est pas tenable. Je vous assure que cette situation n'est plus tenable.
Pour résumer, deux animateurs soupçonnés de viol, actuellement en détention provisoire, ont donc précédemment travaillé dans 15 écoles du 15e arrondissement sans que les familles ne le sachent. Ce qu'a nié la mairie de Paris pendant des mois.
Alors, c'est stupéfiant. C'est évidemment scandaleux. On en revient systématiquement, en fait, quoi qu'en dise Emmanuel Grégoire, à cette question du recrutement des animateurs dans le périscolaire parisien.
Absolument. Absolument, et c'est d'ailleurs probablement le nerf de la guerre de ce scandale. Pour résumer de manière un peu grossière, on peut dire que le recrutement des animateurs se fait par de nombreux endroits, absolument n'importe comment. On recrute à l'appel des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, parfois marginaux, qui peuvent être sans diplôme, sans avoir eu leur profil vérifié. L'école ne sait pas quels sont les animateurs qui s'occupent du périscolaire, puisque ce n'est pas l'école qui les recrute, mais les fameuses CASP rattachées à la mairie de Paris. Ainsi, il suffit qu'une CASP soit profondément déficiente, c'était le cas dans le 11e arrondissement par exemple, à Paris, c'est la porte ouverte à tous les pédophiles de Paris. C'est d'ailleurs ce qu'explique parfaitement au micro de Sud Radio Arnaud Gallet, président de l'association Move Enfants.
Personne se rassemble dans une même école. C'est un réseau, c'est quoi?
Non, mais je pense que de manière très simple, alors moi j'ai un peu de mal avec les réseaux, moi je pense que c'est ce qu'a démontré le rapport Sauvé, c'est-à-dire que les gens, évidemment, même se refilent les bons plans, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où les gens, c'est de la pédocriminalité.
Vous dites les pédocriminels se refilent les bons plans.
Ah oui, parce que les gens, en fait, s'identifient, y compris, évidemment, sur Internet et différentes choses, et puis c'est pas forcément hyper organisé, mais vous savez très bien, en fait, qu'à un moment donné, que là, vous risquez quasiment rien. De toute façon, je le redis, 3% des agresseurs sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de risque, en fait, et même quand vous êtes condamné, quand vous êtes condamné, bon, on sait bien que les peines, elles sont pas hyper importantes. On l'a bien vu avec le périscolaire dont vous parlez, le réquisitoire au niveau du parquet, la première chose, c'est du sursis. Hein. Vous êtes sur des choses finalement assez légères, hein, c'est light. Hein.
Par ailleurs, c'est ce que soulevait donc Ségolène Royal dans son interview aux médias Légende, il n'y a aucune caméra dans les écoles. Et ce, malgré le scandale. Et ce n'est pas seulement ça. Comme nous l'expliquait au téléphone la fondatrice de SOS Périscolaire, Anne, les parents ne savent pas non plus qui s'occupe de leurs enfants. Et c'est ensuite la croix et la bannière pour eux de judiciariser en cas d'agression.
Il faut que les parents puissent savoir qui s'occupe de leurs enfants, avoir les noms, les prénoms, les photos, notamment pour que les petits puissent identifier leurs potentiels agresseurs, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Les trombinoscopes ne sont pas accessibles aux parents. En particulier en province, il y a de toutes petites équipes, donc finalement, on considère que ces gens qui sont là depuis très très longtemps, on peut leur faire confiance, et les parents ont le plus grand mal du monde à se faire entendre, notamment quand ils se retrouvent en face à face avec la mairie. Donc il faut absolument qu'il y ait des process et des sanctions pour défaut de signalement, parce que quand la mairie ne veut pas mettre en cause son agent alors que plusieurs parents relatent des faits de violence, qu'elles soient sexuelles ou physiques ou psychologiques, eh bien les parents n'ont pas tellement de recours à part judiciariser. Or, on a toujours une hésitation à déposer plainte, notamment quand il s'agit de violences physiques. Donc les parents mettent beaucoup de bonne volonté à essayer de trouver des solutions, mais la réalité c'est qu'il faut que les mairies s'engagent, il faut que toute la chaîne s'engage pour que les signalements remontent, pour que des suspensions à titre conservatoire et des sanctions administratives puissent être délivrées afin que les agents gardent une trace de ces problématiques sur leur dossier administratif. Sachant que nous, ce qu'on aimerait évidemment dans l'idéal, c'est un fichier national. Parce que par exemple, le fameux animateur de l'école Titon dont on parlait qui a été relaxé, eh bien aujourd'hui, s'il traverse le périphérique parisien, il peut aller travailler au contact d'enfants n'importe où.
Et effectivement, pour rebondir sur ce que l'on vient d'entendre à l'instant, non seulement les parents ne savent pas qui s'occupe de leurs enfants, mais en plus, et c'est peut-être un des plus grands scandales de ce scandale, le scandale dans le scandale, un animateur déjà impliqué dans des affaires d'agression sexuelle peut être ni plus ni moins recasé, et ce, sans que les parents le sachent. On l'a d'ailleurs appris récemment, un animateur déjà mis en cause pour maltraitance dans une école du 7e arrondissement de Paris a par exemple été exfiltré et muté en catimini après un simple recadrage dans une école du 15e arrondissement. Et ce qui devait se passer s'est passé, il est depuis visé par 3 plaintes pour viol. Autre exemple, on l'a appris hier, à l'école Saint-Dominique, la mairie de Paris a recruté un animateur périscolaire visé depuis plus d'un an au moment de son recrutement par une plainte pour inceste.
Une fois plus, la manière admirable dont la justice traite la chose est parfaite. On a vraiment de la peine à y croire. Et en vous écoutant quand même, il y a une réflexion, c'est tous ces animateurs sont des hommes. En fait, on peut légitimement se poser la question, dans quelle mesure est-il pertinent de confier à des hommes tout ce qui est loisirs périscolaires à l'école?
Alors vous mettez là le doigt, Richard, sur un des plus gros malaises non dits dans cette affaire du périscolaire. Car on peut dire que d'une certaine manière, Anne Hidalgo a fait entrer le loup dans la bergerie. En 2007, dans une émission sur Feu, la chaîne D8, Anne Hidalgo défendait en effet la mixité des emplois et l'entrée des hommes dans le secteur de la petite enfance.
Dans le domaine de la petite enfance, où à Paris nous avons 95% de femmes, nous sommes en train de faire la mixité des emplois, c'est-à-dire de faire rentrer des hommes.
Comme si c'est les hommes qui devaient s'occuper des petits enfants.
Or, on sait aujourd'hui, grâce à de multiples études et rapports sur le genre des auteurs d'agressions sexuelles, que dans les cas de violences sur mineurs, ce sont les auteurs masculins qui dominent, surtout dans les institutions, dans les écoles. Pour ne citer qu'une étude, en France, le Haut Conseil à l'égalité résume ainsi dans son rapport qui s'appelle « Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et aux agressions sexuelles ». Ce rapport avance les chiffres judiciaires récents. 97% des mises en cause dans les affaires de violences sexuelles faites aux enfants sont des hommes. La mixité des emplois aura donc eu un effet délétère sur nos enfants. Attention, soulignons bien tout de même que certaines femmes sont impliquées dans ce scandale, évidemment. Notons également, et ce sera le dernier non-dit que j'évoquerai avec vous aujourd'hui avec plusieurs pincettes, selon plusieurs sources que nous avons contactées, des enfants auraient indiqué que des animateurs étaient avec leur téléphone lors de scènes de viol. En clair, certains viols auraient pu être filmés pour se retrouver ensuite vendus sur Internet, le marché de la pédocriminalité sur Internet générant des sommes d'argent absolument colossales.
Là, je crois qu'on est au bord de l'écœurement à vous entendre.
Oui, d'autant plus que ce n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Pour l'heure, toute l'attention médiatique est focalisée sur le périscolaire parisien. Mais quid du périscolaire en province? Selon le collectif SOS Périscolaire, aucune, je dis bien aucune, région de France n'est épargnée. C'est ce que nous explique Anne, la fondatrice du collectif.
On s'est créé en 2021, quand le périscolaire n'intéressait personne. Donc, dès le début, on a reçu des témoignages qui venaient de partout en France. On accompagne des familles partout en France. En ce moment, on a beaucoup de situations en dehors de Paris, on va dire dans la banlieue. On a par exemple le Valois, on a Colombes, on a Montreuil, où ce soir il y a un rassemblement qui a lieu. Et puis bien sûr, il va y avoir Toulouse, Montpellier, enfin c'est vraiment partout en France. Et pour revenir à notre carte, en effet, sur notre site, nous sommes les seuls à avoir un outil qui permet de comptabiliser quelque part tous les signalements et les plaintes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de chiffres. On n'a même pas de chiffres, j'ai envie de dire, sur les plaintes liées au périscolaire au niveau national. Donc c'est notre travail principal, c'est d'harmoniser en réalité les conditions d'accueil et de sécurité partout sur le territoire, parce qu'actuellement il n'y a pas de cadre légal qui regroupe l'ensemble des accueils périscolaires. Pour comprendre pourquoi je dis ça, en fait, il faut savoir qu'un accueil périscolaire, il peut être déclaré par la mairie à Jeunesse et Sport, le SDJES, qui est un service de l'État, qui apporte des contraintes de vérification, de casier, ce qui apporte des taux d'encadrement obligatoires, ainsi que la possibilité de contrôle et de signalement pour les parents. Et quand la mairie ne déclare pas son accueil périscolaire à Jeunesse et Sport, eh bien, par défaut, l'accueil périscolaire devient une garderie. C'est-à-dire, c'est un espèce de statut qui n'en est pas un, qui n'a pas d'existence légale et qui ne répond à aucun cadre légal. Et ça représente à peu près 40% du périscolaire en France. Ça veut dire que 40% des périscolaires en France, eh bien, il peut y avoir une personne sans aucun diplôme, sans vérification pour 150 enfants, et c'est parfaitement légal.
Sur la carte interactive du collectif, que l'on peut trouver facilement sur Internet, on peut ainsi voir des signalements faits partout en France, par des parents et des professionnels auprès du collectif, puisque comme vient de le dire Anne, il n'y a pas de chiffres officiels au niveau national. Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne, Isère, pratiquement aucun département n'est épargné. Je citais là ceux où il y a le plus de signalements recensés, et on ne peut s'empêcher de se demander, en regardant ça, combien d'enfants auraient pu être protégés si les informations avaient circulé et les mesures prises.
Merci beaucoup Julie pour cet état de votre enquête qui va évidemment continuer. On s'aperçoit avec horreur qu'on peut étendre sans cesse le champ de cette enquête en fait. Paris mais aussi la province, le périscolaire mais aussi le scolaire, parce qu'au bout du compte... Qu'est-ce qui nous prouve que l'école elle-même est à l'abri ?
Absolument. Alors pour être honnête, j'ai pas encore enquêté dessus, mais quand on voit que, ne serait-ce qu'en province, quand vous regardez la carte du collectif SOS Périscolaire, c'est flagrant. Il y a des dizaines et des dizaines de cas partout en France, ne serait-ce que dans le périscolaire dont on ne parle pas. Donc quid effectivement du scolaire ?
Il y a eu le scandale du sport à l'école, maintenant le scandale du périscolaire. Bah, il serait étonnant que l'école soit épargnée par ce champ ouvert aux pédophiles, dans lequel visiblement ni les municipalités, ni la justice, ni l'État n'ont daigné regarder jusqu'à maintenant.
Ça pourra aussi faire, j'ouvre largement, mais même il y a le scandale aussi des EHPAD. Quand on regarde le nombre de centaines de viols de femmes dans les EHPAD, on en parle assez peu. Donc après le scandale du périscolaire, il pourrait y avoir celui du scolaire, ensuite... du sport, de l'EHPAD, enfin c'est un sujet en France dont on a beaucoup de mal à parler. Voilà, les institutions se bouchent le nez pour en discuter et on ne sait pas vraiment pourquoi.
Et elles se protègent. Merci beaucoup Julie Solveig d'avoir contribué à lever le voile et évidemment à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci beaucoup.
Ligne droite.
Et bonjour Pascal Pointu.
Bonjour Richard.
Alors, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Je vais vous parler d'un sujet que personne ne parle à l'heure actuelle et qui pourtant est fortement impactant pour les territoires ruraux. C'est la fin de l'ADSL qui est programmée et les solutions pour nos territoires ruraux. Donc la fin de l'ADSL est programmée en France pour 2030, début 2030. Mais déjà la fin de la commercialisation des offres a débuté en février 2026, c'est-à-dire que certaines zones rurales n'ont plus le droit de se voir attribuer un contrat Internet par ADSL. Donc le réseau cuivre est déjà remplacé depuis quelques années par la fibre dans beaucoup de villes. Le réseau filière aérien est dorénavant révolu, mais quid des zones rurales éloignées ou peu habitées ? L'État a programmé commune par commune des fermetures techniques qui passent tout d'abord par l'abandon des installations commerciales à l'ADSL, donc plus de ventes de box Internet. Et pour les 24 440 communes sur les 36 000 qui existent en France, soit environ 68% de la carte, plusieurs dates de fermeture définitive du réseau s'échelonnant en 2027 et début 2029. Mais l'État abandonne en rase campagne des très petites communes, bien souvent constituées de nombreux hameaux, et les finances de ces communes déjà fortement impactés par les désengagements de l'État, ne peuvent pas faire face aux coûts exorbitants, même avec des aides. Et nous avons déjà vu cet exemple. Hein. L'exemple de la fin de la DSL m'a fait penser exactement où, il y a quelques années, on imposait à chaque commune d'avoir sa station d'épuration et donc un branchement collectif des eaux usées. Et le constat est simple, les obligations et la réalité ne peuvent pas se conjuguer ensemble quand on ne connaît rien à la ruralité. Encore une fois, les technocrates parisiens ou bruxellois sont bien loin des impératifs de nos campagnes. Eh bien, pour la fin de la DSL, on refait le même match puisqu'on est en Coupe du Monde. On impose la fibre sans oublier que l'usager, l'abonné, paie toujours plus cher pour une amélioration finalement destinée à de gros consommateurs exigeant des vitesses de téléchargement importantes ou des montages vidéo. Pour autant, les pannes existent toujours, hein, que ce soit par le réseau fibre, comme c'est le cas avec la DSL mourante. Et comme toujours, les prestataires de services ne sont plus à la hauteur. Les pannes Internet, téléphone durent toujours aussi longtemps. Mais pour ceux qui n'auront plus dans un avenir très proche la possibilité d'être dépannés par les sous-traitants qui ne sont pas éligibles à la fibre, que reste-t-il donc à nos ruraux ? Eh ben, pour les urbains, le décret du 15 janvier 2009 impose le droit au très haut débit. Mais pour nous, pauvres petits ruraux, deux seules solutions existent. Celle d'abord d'Elon Musk, c'est-à-dire de passer par Starlink, hein, la boîte américaine d'Elon Musk, mais qui certes apporte une connexion au débit, mais seulement une connexion Internet, ni offre télé, ni offre téléphonie fixe, quand le mobile ne passe pas dans certaines zones encore, 20% du territoire ne sont pas couverts par le téléphone mobile. Et l'État français a donc imposé la société Nordnet, qui est détenue comme par hasard à 100% par Orange. Et cette société propose plusieurs offres d'accès à Internet et d'offres de téléphonie fixe et mobile et d'une box télé pour TNT. Mais ces deux solutions passent par l'intervention et la pose de paraboles. Donc on revient au passé. On est revenu au passé avec les trottinettes dans nos villes. On revient au passé pour l'accès à Internet et à la télé, avec la parabole, puisque la DSL était le garant de faire disparaître les paraboles de nos façades. Et on se voit bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes n'auront pas la fibre. Et donc, il n'y aura pas d'autre solution pour ces abonnés-là, qui vont apprendre très rapidement, et malheureusement, c'est bien pour ça que ma chronique porte aujourd'hui là-dessus, parce qu'il n'y a aucune information de l'État, et 2030, c'est demain. Et personne n'est au courant, ou très peu de personnes sont au courant, que la DSL est programmée, la fin de la DSL est programmée, et malheureusement, les communes ne pouvant investir dans la fibre, eh ben, les usagers n'auront pas d'autre solution que de contracter auprès d'Orange à un tarif plus cher, bien entendu, que la DSL auparavant pour le même service, et ils devront mettre une parabole sur leur façade, et on appelle ça de l'écologie durable.
Je suis évidemment effondré. Il nous reste juste deux minutes, Pascal Pointu, sur ce scandale de la DSL, mais sur la manière dont systématiquement, en fait, les populations rurales sont, mésestimées, desservies. On a l'impression, en fait, que c'est dans toute la France que, peu à peu, il y a un recul de tout ce qui fait, normalement, la vie de tous les jours, surtout avec un gouvernement qui essaie de numériser de plus en plus l'ensemble des interactions entre le citoyen et l'État.
Oui, et puis il faut bien se dire une chose, c'est que on voit bien les plans qui sont faits pour les villes, on voit bien les plans pour l'ANRU, par exemple, hein, l'agence de renouvellement pour l'urbain. On voit bien tous ces plans-là qui sont faits pour l'urbain, pour les banlieues et ainsi de suite. Mais nous avons des territoires où l'habitat s'abîme parce qu'il n'y a plus personne, les personnes sont décédées et les héritiers ne veulent pas le prendre. Et l'État ne fait rien, strictement rien. On nous impose des choses, on nous a imposé le 80 km/h. Édouard Philippe, là aussi, le fameux Édouard Philippe, qui ose même se présenter à la présidentielle, alors que moi, je serais à sa place, je me cacherais. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, on prend des décisions pour des campagnes, pour des zones rurales, mais les habitants de ces zones rurales ne sont jamais, jamais consultés. Et on se retrouve, si vous voulez, vous, la fibre à Paris, ça posait aucun problème. Ça fait des années que vous avez la fibre sur Paris, la banlieue et ainsi de suite. Et moi, dans ma commune, par exemple, l'étude de l'ARCEP, il prévoit qu'il n'y aura jamais la fibre dans ma commune parce qu'il y a 250 habitants, il y a une dizaine de hameaux et c'est bien trop cher pour les pauvres budgets communaux. Et donc, on se retrouve avec un président et un gouvernement qui sont totalement déconnectés des réalités de nos campagnes.
Merci beaucoup, Pascal Pointu, d'avoir mis une fois de plus les points sur les i. Et à la semaine prochaine pour une dernière chronique sur ce monde paysan qui nous est cher à tous.